France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki.
La dictée n'est pas un instrument de torture, c'est au contraire un moment de joie partagée.
Et si l'on vous disait que l'orthographe est née en même temps que l'Académie française en 1634? Mais il faudra attendre 2 siècles pour que la dictée voie le jour dans les salons de l'empereur Napoléon III. Son épouse, l'impératrice Eugénie, demande même à l'écrivain Prosper Mérimée de lui rédiger un texte spécial pour distraire sa cour.
Les mots sont des farceurs, les mots sont pleins de pièges. Donc il faut s'amuser avec l'écriture des mots, avec les règles de la grammaire, etc.
Mais c'est à partir de 1882, avec la loi Jules Ferry, que la dictée prend tout son sens. Elle devient l'épreuve reine du certificat d'études primaires.
On passait le certificat d'études et si vous faisiez 5 fautes à la dictée, vous étiez éliminé, même si vous étiez très bon en mathématiques ou en histoire-géographie. Donc c'était excessif, bien entendu. Tous les mots sont des êtres vivants, car chaque mot a une identité, une histoire, un rôle à tenir. Il faut respecter les mots comme on respecte tous les êtres vivants. Et le premier respect, c'est évidemment pour l'orthographe.
Dictée Académie française, Bernard Pivot, on a la règle de 3 de cette dictée de rentrée du mois de janvier. Bonjour Rachid Santaki.
Bonjour Olivia.
Une petite histoire, une mini-histoire de la dictée avec Bernard Pivot, auteur en cette rentrée de « Mais la vie continue » chez Albin Michel, un livre de souvenirs qui vient de paraître. Bernard Pivot qui maniait lui aussi brillamment l'art de la dictée, l'ancien présentateur d'Apostrophe qui tient chronique littéraire désormais tous les dimanches dans le JDD et qui consacrait son dernier billet justement, au livre, ils voyagèrent vers des pays perdus de notre invité, l'écrivain académicien Jean-Marie Rouard. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, Bernard Pivot, de votre nouveau livre? Il en dit qu'il est drôle, qu'il est décoiffant, qu'il est un peu fou, même carrément fou. Il parle d'un roman uchronique de Rouard qui épate et séduit par son sabotage burlesque de l'histoire et sa joyeuse insolente. Il a vu juste, Bernard Pivot. Amis auditeurs, n'ayez pas de complexe, on a avec nous un académicien. Et pourtant, l'orthographe, vous le dites souvent, n'est pas votre point fort, Jean-Marie Rouard. Pourquoi?
Je vais être obligé de me confesser. Parce que, pas seulement l'orthographe, mais j'étais, j'espère que les mères de famille, d'ailleurs, très souvent, elles me demandent comment faire, parce qu'elles ont un enfant qui travaille très mal en classe, comment faire quand on est nul en classe pour entrer à l'Académie française. Parce que j'étais complètement nul, nul, mais à un point effroyable, et tellement nul qu'on considérait que j'étais presque un débile mental. Et mon père, désespéré, avait décidé de me faire entrer dans la manécanterie des petits chanteurs à la Croix de Bois. Et là, on m'a fait passer un examen, on m'a fait chanter. Alors là, dès que j'ai chanté, les pauvres prêtres ont été consternés, mais on m'a fait faire une dictée. On m'a fait faire une dictée, et puis ensuite, le professeur qui avait fait la dictée m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? J'avais 13 ans. J'ai dit, je voudrais être écrivain. Il m'a dit, écrivain? Alors, il faudra faire beaucoup moins de fautes d'orthographe.
Ben c'est facile à dire, mais comment vous avez fait?
Eh bien, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est-à-dire que je pouvais peu, parce que j'ai mis 5 ans à avoir mes 2 bacs. Je sais pas si vous voyez, c'est effroyable. Ne le répétez pas à l'Académie française, parce qu'ils croient que je suis normalien, agrégé de philo, je ne sais quoi. Donc, non, j'étais un miraculé, je vais vous dire, miraculé de la littérature française. Parce que dès l'âge de 13 ans, j'étais déjà un fou de littérature. Je lisais tout, je lisais à la fois Stendhal, Dostoïevski, Tolstoï. J'étais enivré par la littérature et c'est ce qui m'a sauvé. Parce que j'ai quand même fini par avoir mon bac et ensuite j'ai raté ma première année de droit, j'ai raté ma première année de lettres. Là, je suis devenu journaliste. Alors là, quand on est journaliste, on peut dire un peu n'importe quoi. Donc il n'y a plus de problème. Et puis surtout, ma vocation, c'était d'être écrivain. Et enfin, en 1974, grande nouvelle, mon premier livre a été accepté. Voilà. Eh bien, c'était ma naissance. Et vous voyez, je suis vraiment un miraculé de la littérature. Je devrais aller à Lourdes pour remercier Bernadette Soubirous.
Oui, n'hésitez pas. Et puis voilà aussi comment, en même temps, la littérature, la lecture peut sauver des vies. Ça a été le cas, changer votre trajectoire à vous, Jean-Marie Rouard. Alors, vous auriez pu être un journaliste. On dit souvent d'ailleurs que les journalistes sont des écrivains ratés. Vous êtes devenu un journaliste raté, mais un grand écrivain. Et puis un académicien, non. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous savez comment ça va se passer, cette grande dictée avec notre ami Rachid Santaki. On va, pour les auditeurs de France Culture, qui maintenant sont totalement décomplexés, On va faire une première lecture du texte pour se le mettre dans l'oreille, puis une seconde pour noter, et une troisième lecture rapide, ensemble, pour corriger ce texte, une lecture correctrice, sachant que l'intégralité de cette dictée est à retrouver sur le site d'En français dans le texte, sur franceculture.fr. Voilà pour le rappel des règles. Maître Rachid Santaki, quel texte avez-vous choisi pour aujourd'hui ?
Un extrait d'un auteur incontournable de Victor Hugo et son roman 93.
93. Et cette dictée repose et commence sur une première difficulté. Hein. Le titre de ce roman d'Hugo paru en 1874 et dont l'action se déroule autour de 1793. 93. Comment vous l'appelez, Jean-Marie Roire ?
93, eh bien, je mettrais 4-20 avec NGT et 13. R-I-Z-E.
Voilà, comme quoi vous avez fait des grands progrès en orthographe. Là, pour Victor Hugo, c'est un 80 qui est tout attaché, sans tiret, et un trait d'union 13. Voilà pour la particularité du titre de ce roman de Victor Hugo. Oui. Est-ce que vous êtes prêts tous ? Jean-Marie Roire, c'est bon pour vous ?
Oui.
Amis auditeurs, saisissez-vous d'un stylo et d'un papier. La dictée va commencer. On écoute d'abord une première lecture de cet extrait de 93 de Victor Hugo avec vous, Rachid Santaki.
Merci Olivia, très bonne dictée à toutes et à tous. Cette espèce de logis sous terre, moins rare en Bretagne qu'on ne croit, s'appelle en langue paysanne carnichot. Ce nom s'applique aussi à des cachettes pratiquées dans l'épaisseur des murs. C'est meublé de quelques pots, d'un grabat de paille ou de goémons lavés et séchés, d'une grosse couverture de créseau et de quelques mèches de suif, avec un briquet et des tiges creuses de brane ursine pour allumettes. Ils se courbèrent, rampèrent un peu, pénétrèrent dans la chambre où les grosses racines de l'arbre découpaient des compartiments bizarres et s'assirent sur un tas de varech sec qui était le lit. L'intervalle de deux racines, par où l'on entrait et qui servait de porte, donnait quelque clarté. Point final.
Merci beaucoup Rachid pour cette première lecture et on commence maintenant la dictée.
Cette espèce de logis, cette espèce de logis sous terre, virgule, cette espèce de logis sous terre, virgule, moins rare en Bretagne, moins rare en Bretagne, qu'on ne croit, virgule, qu'on ne croit, virgule, s'appelle en langue paysanne, je répète pour les plus jeunes, cette espèce de logis sous terre, virgule, moins rare en Bretagne qu'on ne croit, virgule, s'appelle en langue paysanne carnichot, point. S'appelle en langue paysanne carnichot, point. Ce nom s'applique aussi à des cachettes, ce nom s'applique aussi à des cachettes pratiquées dans l'épaisseur des murs. Point. Je répète, ce nom s'applique aussi à des cachettes pratiquées dans l'épaisseur des murs. Point. C'est meublé de quelques pots, virgule. C'est meublé de quelques pots, virgule. C'est meublé de quelques pots, virgule. D'un grabat de paille. Ou de goémons lavés. C'est meublé de quelques pots, virgule, d'un grabat de paille ou de goémons lavés et séchés, virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. ou de goémons lavés et séchés, virgule, d'une grosse couverture, d'une grosse couverture de créso, virgule, je répète, ou de goémons lavés et séchés, virgule, d'une grosse couverture de créso, virgule, et de quelques mèches de suif, et de quelques mèches de suif, et de quelques mèches de suif, avec un briquet, et des tiges creuses, et des tiges creuses de brane ursine. Je répète, mèche de suif avec un briquet et des tiges creuses de brane ursine pour allumette. Point. Et des tiges creuses de brane ursine pour allumette. Point. Ils se courbèrent, virgule, ils se courbèrent, virgule, rampèrent un peu, virgule, ils se courbèrent, virgule, rampèrent un peu, virgule, pénétrèrent dans la chambre, ils se courbèrent, virgule, rompèrent un peu, virgule, pénétrèrent dans la chambre où les grosses racines de l'arbre découpaient, où les grosses racines de l'arbre découpaient des compartiments bizarres, virgule. Les grosses racines de l'arbre découpaient des compartiments bizarres, virgule, et s'assirent sur un tas de varechs, et s'assirent sur un tas de varechs secs qui étaient le lit. Point. Je répète ce passage. De l'arbre découpait des compartiments bizarres, virgule, et s'assirent sur un tas de varechs secs qui étaient le lit. Point. L'intervalle de deux racines par où l'on entrait et qui servait l'intervalle de deux racines par où l'on entrait et qui servait de porte donnait quelque clarté. Point final. Je répète cette dernière phrase. L'intervalle de deux racines par où l'on entrait et qui servait de porte donnait quelque clarté. Point final. Voilà pour la seconde lecture.
Merci beaucoup Rachid Santaki. On va refaire une lecture rapide et ensuite tenter de corriger, ou en tout cas d'indiquer pour ceux qui nous écoutent les points de difficulté de ce texte de Victor Hugo. Cette espèce de logis sous terre, moins rare en Bretagne qu'on ne croit, s'appelle en langue paysanne carnichaud. Point. Ce nom s'applique aussi à des cachettes pratiquées dans l'épaisseur des murs. Point. C'est meublé de quelques pots, d'un grabat de paille ou de goémons lavés et séchés, d'une grosse couverture de cresseaux et de quelques mèches de suie, avec un briquet et des tiges creuses de brane ursine pour allumettes. Ils se courbèrent, rampèrent un peu, pénétrèrent dans la chambre où les grosses racines de l'arbre découpaient des compartiments bizarres et s'assirent sur un tas de varechs secs qui était le lit. Point. L'intervalle de deux racines par où l'on entrait et qui servait de porte donnait quelques clartés. Point final. Jean-Marie Rouard, niveau de difficulté de cette dictée.
Écoutez, il y a des mots, évidemment, qu'on a du mal à, parce qu'ils sont pas très connus, même si moi j'étais élevé par des pêcheurs de Noirmoutier, donc le mot Varec, Goémon, tout ça je connais bien, c'est tout à fait une ambiance que je connais. Mais Brad Mursine, par exemple, puis un autre mot, je ne sais plus lequel, c'est pas des mots très courants. Mais enfin, là je me sentirais moins gravement nul si je n'arrive pas à les orthographier.
Alors, cette espèce de logis sous terre, on commence tout de suite par la première phrase et ses premiers points de difficulté. Logis, comment l'écrivez-vous, Jean-Marie Roy?
Bon, écoutez, moi je l'écrirais L-O-G-I-S.
Voilà, toujours avec un S pour le mot logis. Et cette espèce de, ça c'est une règle importante.
Cette, au féminin, C-E-D-T-E, espèce, S-P-E, accent grave, C-E.
Voilà, parce que même suivi d'un complément qui est un nom masculin, comme logis, espèce reste un mot féminin et le déterminant démonstratif qu'il précède, cette, s'écrit C-E-D-T-E, s'accorde donc au féminin. Voilà.
C'est ça, je le savais quand même, quand même. Bon, est-ce que je suis reçu maintenant?
Non, non, il faut aller jusqu'au bout. Vous, à votre terre, essayons un petit exercice de pronostic. Vous pensez avoir fait combien de fautes?
Dans cette dictée, au moins 6 ou 7.
C'est beaucoup.
Non, non, mais je me rattrape, vous savez. Parce que l'orthographe, c'est récent. Et ça a été, cette codification a été faite finalement par la République pour, si vous voulez, pouvoir donner à la méritocratie, si vous voulez, un instrument. La méritocratie contre l'aristocratie. Oui. Et d'ailleurs, Jean d'Ormesson racontait que ses parents, eh bien, ne suivaient pas la réforme de 1835 et ils continuaient à écrire parents santé et enfants santé. Vous voyez, parce que la réforme de 1835 a mis un T à parents et à enfants. Je ne sais plus pourquoi, mais enfin voilà. Vous voyez, donc c'est amusant. Et dans l'aristocratie, il y avait une sorte de, disons, de nonchalance sur l'orthographe, ce qui fait qu'on voyait les lettres de Napoléon à Joséphine, il écrit phonétiquement. Hein. Donc, si vous voulez, je crois que l'orthographe, c'est l'ordre, c'est quelque chose de normatif, tandis que la littérature, c'est tout le contraire, c'est l'âme. C'est le chant de l'âme, la littérature. C'est quelque chose d'irrationnel. C'est une musique. Voilà. Mais moi, je suis déchiré entre mon amour de cette musique et de ce chant de l'âme et en même temps, c'est cette difficulté à m'adapter, à rentrer dans l'ordre. Bizarrement, parce que c'est rare chez les académiciens qu'ils soient pas tellement, disons, socialisé, j'ai une sorte de révolte contre la société.
Voilà, ça fait plaisir d'entendre de la part d'un académicien que le langage, le français, ne devrait pas être trop codifié, il doit rester une langue vivante et libre et surtout en mouvement.
De Jacques Laurent, il disait « j'ai un rapport affectueux avec la langue française ». Eh bien moi, je suis comme ça. Eh bien, je vais vous dire, la particularité, c'est que moi, je suis un peu comme les chrétiens, vous savez, il y a le pêcheur effroyable et puis il y a le saint. Mais moi, j'adore la langue française dans sa difficulté. Je ne suis pas du tout pour sa réforme et pour la rendre très facile. Mais je sais très bien que j'ai cet idéal de perfection de la langue que je ne pourrai jamais atteindre. Mais en tout cas, j'aime qu'elle reste comme ça.
Allez, on reprend la correction de cette dictée. Cette espèce de logis, espèce donc au féminin, sous terre, deux R, à terre, moins rare en Bretagne, avec la majuscule, on n'oublie pas, qu'on ne croit, C-R-O-I-T, s'appelle en langue paysanne, deux N à paysanne, carnichaud. Qu'est-ce que ce carnichaud, Rachid Santaki?
Carnichaud, donc c'est un nom masculin, c'est un logement établi sous les racines d'un arbre.
Et ça s'écrit comment alors?
Alors ça s'écrit C-A-R... N-I-C-H-O-T.
Ah, j'avais mis A-U-T, vous voyez.
Première faute.
Mais là vraiment, non, mais là, franchement, franchement, là, j'ai des excuses.
C'est un petit cachot, en fait.
Oui, carnichaud, oui.
Ce nom s'applique aussi à des cachettes de T-E-S, pratiquées, on n'oublie pas d'accorder, E-E-S, dans l'épaisseur des murs. Épaisseur, pas difficulté, et P-A-I-2-S-E-U-R, des murs, point. C'est meublé de quelques pots, d'un grabat de paille ou de goémon lavé et séché. Alors là, ça peut prêter à confusion ce c'est meublé. Comment l'avez-vous écrit, Jean-Marie Roy?
Moi, j'ai écrit C-E-S-T.
Meublé.
De quelques pots.
Oui, comment écrivez-vous meublé?
C'est meublé au singulier.
Et au participe passé, hein, meublé.
Au participe passé, oui, oui, bien sûr.
C'est meublé de quelques pots, au pluriel, P-O-T-S pour pots, d'un grabat de paille, G-R-A-B-A-T, pour grabat, qui signifie, Rachid Santaki ?
Donc un nom masculin, et c'est un lit misérable.
Ou de goémon lavé et séché, Rachid, goémon ?
Alors, le goémon, en fait, goémon, c'est toujours nom masculin, ce sont des algues marines. Et je crois que M. Roar connaît bien les goémons, c'est bien ça ?
Ah oui, oui, j'ai vécu dans l'odeur du goémon qui est absolument merveilleuse. Et très souvent, vous savez, j'achète des huîtres et on les met, on place ces huîtres sur un lit goémon. Et c'est merveilleux, ça a une odeur immédiatement, comme la petite Madeleine de Proust. Je me sens transporté dans l'île de Noirmoutier, au milieu de ces pêcheurs merveilleux.
Alors, du goémon, vous venez de dire, un grabat de paille, paille sans S. C'est de la paille, c'est la matière. Et pareil pour goémon, G-O-E-M-O-N. Vous l'auriez écrit comme ça ? Parce que vous en connaissez le parfum, mais vous en connaissez aussi l'orthographe ?
Oui, mais je l'ai bien écrit, je l'ai bien écrit.
D'accord.
Je suis très heureux.
Lavé et séché et également, pas de pluriel, surtout, on reste au singulier. C'était la fin de la dictée pour les écoliers. Comme vous êtes grand, on continue. D'une grosse couverture de créso. Qu'est-ce que c'est, Rachid ?
Alors, le créso, donc toujours un nom masculin, c'est un textile, c'est une étoffe de laine croisée.
Jean-Marie Roy ?
J'ignorais. Et alors, ça s'écrit comment ?
Ça me rassure. Donc, créso. Alors, comment vous l'écrivez, Rachid ?
C-R-E accent aigu, S-E-A-U.
Alors, je vous laisse continuer. Rachid Santaki, et de quelques mèches ?
Et de quelques mèches de suif, donc quelques et mèches au pluriel. Mèches, évidemment, accent grave. De suif, donc de suif, S-U-I-F. Et donc, le suif, c'est un nom masculin et c'est une graisse fondue de ruminants en particulier. Avec un briquet et des tiges creuses de brane ursine. Donc, de quelle manière avez-vous orthographié branursine, Monsieur Roy ?
À l'intuition.
Alors, branursine, eh bien, comme ça se prononce, parce que comme j'ignorais tout à fait, c'est la première fois que j'entendais, j'ai écrit B-R-A-N-E, plus loin, ursine, H-U-R-S-I-N-E. Mais j'ai sûrement tort.
Rachid, c'est pas mal, hein ? Il y a juste un H vrai. qui s'est
très bien,
ajouté.
Très bien.
Ouais. Bran, c'était parfait, tiré ursine, voilà. U-R-S-I-N-E, sans H par contre, Jean-Marie Roy.
Bon, d'accord. Je serai pour la prochaine fois que vous m'inviterez.
Pour parler de bran ursine. Racontez-nous, Rachid Santaki, qu'est-ce que c'est, d'où vient ce mot ?
Ce sont des acanthes sans épines, et du coup, on les appelait aussi les bran ursines ou les fausses bran ursines, B-R-A-N-C, ou également BERS. Donc, c'est vrai que bran ursine s'est transformé. Et aujourd'hui, on appelle des brans ursines,
bon,
avec un C.
On se souviendra qu'on peut en faire des allumettes, c'est déjà pas mal. Tige creuse, hein, T-I-G-E-S pour tige, creuse avec un S, C-R-E-U-S-E-S. Voilà, allumette, deux L, deux T. Et pour allumette, vous l'avez écrit au pluriel ou au singulier ?
Pour allumette, il est mieux au pluriel.
Vous avez bien fait. Ils se courbèrent, rampèrent un peu, pénétrèrent. Là, on est dans l'emploi du passé simple. Hein. Donc, E-R-E-N-T, rampèrent également, pénétrèrent dans la chambre où les grosses racines de l'arbre découpaient, A-I-E-N-T, on revient à l'imparfait, des compartiments bizarres. Pas de difficulté, je pense, jusqu'ici. Vous me dites, ramper, peut-être, le verbe ramper, c'est R-A-M-P-E-R quand on le passe à l'infinitif. Et s'assire, alors, S-A-2-S-I-R-E-N-T. Et on y arrive sur ce tas de varech sec qui était le lit. Comment l'avez-vous orthographié ? Pouvez-vous nous dire, Jean-Marie Roar, ce tas de varech sec ? Ce tas de varech sec.
Varech, V-A-R-E-C-H. Sec, S-E-C.
Bah, c'est encore des algues en plus. Là, vous êtes toujours dans votre répertoire de prédilection.
Oui, c'est vrai.
Et T-A-T-A-S, l'intervalle.
Ah,
avec.
Oui, ouais. Ah, oui, bien
exactement.
Sûr,
oui. Un tas d'un qui était le lit, l'intervalle de deux racines, intervalle 2-L-E, racine R-A-C-I-N-E-S. Par où l'on entrait. Donc là, la liaison, mais évidemment, entrer, c'est le verbe entrer, E-N-T-R-A-I-T, à l'imparfait, et qui servait de porte, donnait quelques clartés. Quelques clartés, singulier ou pluriel ?
Ah, au singulier, il me semble. Enfin, quelques clartés, j'aurais mis au singulier.
Et pourquoi ? Ça, là, typiquement, vous y allez à l'intuition.
Oui, exactement. Mais vous savez, parce que, en matière littéraire, d'ailleurs, il y a l'intuition. Disons, là, on se dit, Et puis la sonorité, la quelques clartés. Enfin, c'est comme ça que j'ai vu, mais je peux me tromper.
Mais non, c'est tout juste. Donc, deux portes au singulier, clarté également.
Parce que je m'attendais à avoir fait 7 fautes, mais je crois que j'en ai fait 3. 3 sur des mots très compliqués. Finalement, je ne suis pas si nul que ça.
Ben non.
Alors, je vais pouvoir me vanter.
Vous avez bien fait d'être passé dans cette émission. Alors, du coup, 3, c'est tout à fait raisonnable. C'est même un très, très bon score à dictée. De toute façon, Rachid Santa qui dit toujours qu'il ne faut pas se noter et qu'on fait ça pour le plaisir. Mais bon, en vrai, on a quand même tous envie de savoir un peu ce qu'on vaut face à la langue de Victor Hugo. Jean-Marie Roard, bravo, félicitations et merci aussi, bravo aux auditeurs qui ont réussi peut-être à vous égaler, voire à vous surpasser et qui sont donc désormais dignes d'entrer à l'Académie française. Il reste un fauteuil de libre en ce moment ?
Oh, il y en a beaucoup.
Alors oui, c'est ça.
Et puis, vous savez, ce qu'il y a de bien pour l'Académie, c'est qu'on ne vous demande rien. On ne vous demande pas le bac, on ne vous demande pas si vous faites des fautes d'orthographe, on vous demande pas si vous avez lu Victor Hugo ou Marcel Proust. Et d'ailleurs, quand j'y suis rentré, vous savez, je me suis rentré, là aussi comme pour le bac, je me suis rentré à la 5e reprise. Hein, j'étais les bras avec le plus jeune. Et on m'a dit, vous êtes heureux? Et j'ai dit, non, je suis inquiet. On m'a dit, mais pourquoi êtes-vous inquiet? J'ai dit, je suis inquiet. J'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Balzac n'avait eu que 2 voix. Vous voyez, donc j'ai relativisé. Je me suis dit, je suis à l'Académie, j'ai eu de la chance, j'ai eu un ange gardien, mais tout de même, si Balzac n'a eu que 2 voix, il ne faut pas se monter la tête.
Un mot juste du titre de votre nouveau livre, « Ils voyagèrent vers des pays perdus ». Quels sont ces pays perdus, Jean-Marie Roard ?
Ces pays perdus, c'est une phrase qu'employait souvent le général de Gaulle, « tirée des milliers de nuits ». Parce que dans mon livre, il y a cette atmosphère d'aventure, à la fois, j'essaie d'être picaresque, un peu amusant, et en même temps, de dire quelques vérités, parce que je trouve que la littérature aussi, on doit pouvoir dire des vérités sur l'histoire. Et moi, j'adore l'histoire, mais là aussi, je suis un peu anticonformiste. J'adore la phrase de Napoléon qui disait « L'histoire, c'est un mensonge qu'on ne conteste plus ». Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de mensonges, et j'essaie d'en percer quelques-uns. Et donc, les gens partent à l'aventure, c'est une espèce de roman épique, et ils vont dans la mer de Marinthe, ils vont à Arkhangelsk, ils vont à Samarcande, ils voyagent, et ils leur évitent des tas d'aventures avec des femmes très belles. Parce que Julien Gracq disait, s'il n'y a pas de femme fatale dans un livre, s'il n'y a pas des femmes de petite vertu, la littérature ne vaut pas qu'on s'en occupe. Voilà, il faut quand même aussi des femmes fatales.
Voilà, on a retrouvé l'académicien qu'on espérait trouver à travers cette dernière réponse. Merci mille fois, Jean-Marie Roard. C'est aussi un voyage littéraire et une invitation au voyage dans l'histoire de France à travers votre plume et votre humour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.